au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Si nous avons tous en mémoire la Rome antique, ses ruines, son forum ou la Rome baroque, sa Piazza Navona, que reste-t-il de la Rome médiévale dans nos têtes? Comment Rome a traversé le Moyen-Âge? Malgré les pillages, les guerres et les révoltes, sans compter les épidémies de peste qui ont ponctué son histoire durant cette période, Rome semble mériter plus que jamais, au regard des dernières découvertes historiques et archéologiques, son surnom de ville éternelle. Pour nous parler de Rome au Moyen-Âge, j'accueille aujourd'hui à Canal Académie André Vaucher à l'occasion de la parution du livre « Rome au Moyen-Âge sous sa direction » publié en 2010 aux éditions Rive-Neuve. Spécialiste d'histoire religieuse, médiéviste, l'histoire des pèlerinages, des saints, de l'homme médiéval, du christianisme ont peu de secrets pour lui. André Vaucher, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-ce qu'aucune connotation précise ne s'attache à la Rome médiévale dans la plupart des esprits?
C'est une bonne question parce qu'effectivement, tout le monde, ou en tout cas toute personne ayant une certaine éducation, connaît ou a entendu beaucoup parler de la Rome antique. Et puis, depuis au moins une quarantaine d'années, on se passionne en France, mais aussi dans d'autres pays, pour la Rome baroque. Entre les deux, il y a une espèce de grand vide qui couvre presque un millénaire et qui est effectivement assez mystérieux. Le dernier ouvrage sur Rome au Moyen-Âge, celui de Léon Homo, qui était un correspondant de l'Institut d'ailleurs, date de 1934. C'est donc dire qu'on ne s'est pas bousculé ces dernières années ou ces dernières décennies pour étudier ce sujet. Alors pourquoi? Eh bien parce que d'abord, les deux grandes périodes de Rome, l'Antiquité et l'époque moderne, ont fait de l'ombre et que les humanistes, au XVe, XVIe siècle, ont volontairement insisté sur le fait que tout ce qui s'était passé avant la Renaissance était véritablement méprisable. Et de fait, ce millénaire ou quasi-millénaire médiéval n'est pas une période très brillante, apparemment, dans l'histoire de Rome, parce que Rome était une ville énorme, 1 million d'habitants, peut-être sous Trajan, encore au moins 800 000 à la fin de... Enfin, sous Constantin, disons. Et ensuite, il y a une véritable saignée démographique. Et d'autre part, avec la disparition de l'Empire, en Occident en particulier, Rome perd sa fonction de capitale du monde méditerranéen. Donc il y a une énorme chute de population. Et on peut considérer qu'au Moyen-Âge, Rome, on n'arrive pas bien à donner des chiffres précis, parce qu'on n'a pas de statistiques, bien sûr, pour cette époque. Mais enfin, la population de Rome, jusqu'à la fin du XVe siècle, n'a jamais dû dépasser les 40 000 habitants. Ce qui est vraiment médiocre, même pour une ville médiévale, puisque Florence, Venise étaient beaucoup plus importantes, par exemple, à la même époque.
Peut-être pour commencer et resituer un petit peu cette longue période du Moyen-Âge pour la ville de Rome, j'ose vous demander de nous résumer ou de nous donner un aperçu historique de ces siècles.
Absolument, c'est nécessaire parce que cette période n'a aucune unité réelle. On appelle Moyen-Âge, ça veut dire période du milieu, mais milieu entre l'Antiquité et la Renaissance, justement. Mais bon, ça ne suffit pas à lui conférer une unité. Alors, il y a d'abord une période incontestablement de décadence qui est marquée par la fin de l'Antiquité et le passage au Moyen-Âge, qui à Rome s'est fait un peu plus tard qu'ailleurs, plutôt entre le VIe, fin VIe et au VIIe siècle. Ensuite, il y a une période importante pour Rome dans la mesure où elle est devenue le centre de l'État pontifical, qui s'est constitué précisément à ce moment-là. Et puis ensuite, la ville a participé au destin de l'Italie, a connu un mouvement communal, un mouvement d'émancipation urbaine, mais qui a été limité, disons, par la papauté, qui conservait la haute main sur la ville. Et puis, une grosse crise au XIVe siècle, lorsque la papauté est partie à Avignon. Là, on a peut-être touché le fond à ce moment-là, vers la fin du XIVe siècle, suivi à partir du retour du pape à Rome en 1417, des prodromes de ce que sera ensuite la Renaissance à partir des années 1460-70. Voilà.
Alors, une période très riche. On passe d'une Rome byzantine aussi, une Rome à la commune à la fin. Enfin, on a vraiment là diverses influences extérieures, locales, la puissance de la papauté. Enfin, vous allez détailler tout ça à travers l'histoire de la ville. Et j'aimerais qu'on puisse essayer de donner un visage à Rome en ce début de Moyen-Âge. Là, à quoi ressemblait la ville ?
Alors, la ville devait ressembler, d'après les dernières trouvailles archéologiques, parce que depuis une vingtaine d'années, on en a fait beaucoup, et ça nous permet d'avoir une idée plus précise, justement, de ce passage de l'Antiquité au Moyen-Âge qui restait assez mystérieux. Donc, la ville, en quelque sorte, d'abord, elle s'est restreinte en superficie, dans la mesure où la population était raréfiée. Donc, elle se replie sur, disons, ce qu'on appelle la boucle du Tibre, entre le Vatican à l'ouest, le champ de Mars à l'est, et puis au sud, le Palatin. Donc, il y a toute une série de quartiers qui étaient occupés à l'époque romaine, antique, et qui sont abandonnés, où on trouve simplement un ou deux monastères, mais qui sont quasiment déserts. Donc, la ville se rétracte. Elle se rétracte et en même temps, elle se transforme, parce qu'elle devient de plus en plus un centre religieux, surtout à partir du moment où la papauté devient indépendante, autonome par rapport à l'Empire byzantin, et crée justement ces états de l'Église. Et il y a donc une multiplication d'églises, de basiliques, en liaison aussi avec l'essor du pèlerinage à Saint-Pierre. Donc il y a un changement. Les édifices publics disparaissent ou ne sont plus entretenus, puisque Rome n'est plus la capitale du monde, mais elle est de plus en plus la capitale de l'Église. Et alors ça entraîne le développement de nouvelles zones, comme par exemple le Vatican autour de Saint-Pierre, qui n'était pas un quartier important dans l'Antiquité, ou bien la zone autour du Latran, puisque le palais du pape était à côté de la basilique Saint-Jean de Latran. Donc il y a des modifications non seulement dans la géographie interne de la ville, mais aussi dans ses fonctions.
Il y a une rétractation territoriale, presque. Comment vivent les habitants par rapport à ces ruines antiques, ces bâtiments ? Alors là, tout ça évolue évidemment sur la longue période du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il advient de ce centre romain, du forum impérial par exemple, par rapport à cette nouvelle période médiévale ?
Alors c'est une bonne question.
Les habitants s'en emparent.
Voilà, c'est quelque chose là aussi sur lequel les historiens et les archéologues ont évolué, parce que on avait cru, et jusqu'à une époque assez récente, que tout le cœur de la ville était devenu une sorte de no man's land, le forum en particulier. Alors, le forum, ça s'appelait au XVIe, XVIIe siècle, on appelle ça le Campo Vaccino, le champ des vaches. Donc c'était devenu une sorte de pâturage jusqu'à ce qu'on y fasse des fouilles. Donc on imaginait un peu le centre de Rome comme une sorte de désert qui aurait été abandonné. Alors les fouilles récentes ont montré que ce n'était pas aussi simple que ça et que sur le forum, par exemple, il y avait eu, au moins jusque vers l'an 1000, des habitations, mais des habitations qui n'étaient plus des temples, qui n'étaient plus des édifices publics solennels, mais des maisons fortes, disons, de familles aristocratiques qui s'étaient implantées sur les ruines. Puis il y avait aussi des gens qui vivaient dans les ruines, parce que ces ruines étaient immenses et innombrables. Et donc, on avait aussi un habitat sous forme de grottes, enfin, une grotte qui n'était pas des grottes naturelles, bien sûr, mais des structures antiques en forme de voûte, par exemple, ou des aqueducs qui avaient été réutilisés pour y installer soit des ateliers, des magasins, même parfois des habitations. Donc, il faut imaginer une ville qui, dans une certaine mesure, continue à occuper une partie de l'espace antique, mais dans un esprit tout à fait différent, et d'autre part, qui se loge, qui se niche, je dirais, à l'intérieur des ruines de cette même antiquité.
Comment les visiteurs de l'époque percevaient la ville ?
Alors les visiteurs, enfin, nous avons surtout des échos à partir du Xe, XIe siècle, étaient absolument fascinés par justement par ces ruines et par leur caractère impressionnant, parce que beaucoup d'édifices qui ont disparu depuis existaient encore. Donc la Rome de l'an 1000 ou même 1200 était encore beaucoup plus proche de l'Antiquité que ce que nous pouvons voir. Donc un amas de ruines impressionnant et très beau. Donc les gens qui venaient surtout de l'Europe du Nord étaient totalement fascinés. Et en même temps, ça favorisait la diffusion de toutes sortes de légendes. Et un des aspects les plus intéressants de la Rome médiévale, c'est que ce n'est pas seulement une ville, c'est aussi un mythe. C'est-à-dire qu'on se forge une idée et des livrets sont écrits, des récits circulent, comme quoi Rome est une ville pleine de secrets. Que c'est pas possible que
ces ruines soient là
comme ça. Et elles doivent être ou hantées ou habitées par des génies ou par des figures qui un jour sortiront du néant. Enfin, bref, il y a tout un imaginaire qui est lié au souvenir de l'Empire romain, avec l'idée que, on trouve encore ça chez le poète du Bellay au XVIe siècle, il n'est pas possible qu'une civilisation qui a conçu et construit une ville, des monuments aussi extraordinaires, n'ait pas laissé de traces même physiques.
Vous dites que cette Rome imaginaire se superpose aussi à la Rome concrète.
Voilà. Encore au XVIe siècle, quand Montaigne arrive à Rome pour la première fois, il dit « Cette ville, je la connaissais par cœur, il n'y avait jamais mis les pieds. » Mais ça fait 30 ans ou 40 ans que j'en entends parler. On me l'a appris à l'école, la poésie latine qu'on apprenait évidemment, qui était la base de la culture, etc. Donc il la connaissait par cœur avant d'avoir vu. D'où chez certains une certaine déception, parce qu'ils s'attendaient à voir des palais encore tous en bon état, et ils trouvent souvent des ruines. Et la réalité n'était pas toujours à la hauteur de leurs attentes. Mais enfin, Rome faisait partie du patrimoine culturel et religieux de l'Occident. Et donc tout le monde, même les gens qui n'avaient pas mis les pieds, tous les gens qui avaient fait quelques études ou qui avaient un minimum de culture, même s'ils n'avaient jamais mis les pieds à Rome de leur vie, savaient quelque chose sur
Rome. L'histoire des saints, voilà. Des martyrs,
alors, il y avait
sans compter les pèlerins,
voilà,
j'imagine.
Il y avait les traditions antiques qui étaient parvenues et puis qui sont renouvelées par l'humanisme. Et puis, il y avait les traditions chrétiennes avec tout ce qui est lié à Saint-Pierre, à Saint-Paul, aux martyrs de Rome, etc. Donc, on voit tout à fait cet imaginaire se propager dans toute l'Europe. Par exemple, au XIVe siècle, lorsque Sainte Brigitte de Suède, qui, comme son nom l'indique, arrivait de l'Europe la plus scandinave, la plus nordique, quand elle a une vision de Dieu qui lui dit de se rendre à Rome, et elle écrit à un de ses correspondants « Je vais à Rome pour voir les places qui sont rouges du sang des martyrs ». Mais évidemment, les martyrs, il y avait longtemps qu'ils ne laissaient plus de sang sur les places de Rome. Mais cette idée, vous voyez, que Rome était à Rome, les places étaient rouges du sang des martyrs, c'est une idée très forte.
Quel est le statut? Est-ce qu'on peut comparer, disons, cette particularité de la ville de Rome avec Constantinople, enfin l'autre Rome, et puis Jérusalem? Parce que ce sont des villes qui ont nourri aussi, je pense,
absolument,
l'imaginaire. Alors, comment situer Rome parmi ce petit trio?
Effectivement, disons que de ce point de vue-là, au Moyen-Âge, Rome est peut-être plus proche de Jérusalem, dans la mesure où à Jérusalem, ce qu'on cherche, c'est évidemment les traces de la Bible, de la vie du Christ, de Marie, etc., des apôtres. Tandis que Constantinople avait tout un patrimoine religieux extrêmement important, bien sûr, mais enfin, c'était quand même la capitale de l'Empire byzantin. Les monuments les plus frappants étaient non seulement Sainte-Sophie ou les églises, mais aussi de grands palais, etc. Donc, je dirais que Constantinople, une image peut-être plus laïque, entre guillemets, que Rome. À Rome, on cherche le souvenir des palais antiques, mais la seule chose qu'on pouvait voir encore vraiment en très bon état au Moyen-Âge, c'était les grandes basiliques, justement Saint-Pierre, les basiliques constantiniennes qui remontaient à Constantin, Saint-Pierre et Saint-Paul, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean de la Trempe. Et basiliques, bien sûr, qui avaient été ensuite remaniées, agrandies, etc., mais quand même, dont l'origine restait liée à la naissance du christianisme.
Comment vous expliqueriez cette longévité de Rome, le secret de sa longévité fascine les hommes de l'époque.
Absolument.
Elle les interroge. Elle est à la source de ces récits fabuleux dont vous parlez. En plus, Rome dure.
Oui, absolument. Bien, il y a deux sources de légitimité pour Rome, même dans les moments où elle a été au plus bas, au point de vue démographique ou économique. La première, c'est la présence de la papauté. La papauté, sauf l'intermède d'Avignon, a toujours été à Rome ou dans les environs de Rome. Donc, il y a un lien absolument fondamental entre la tombe de Saint-Pierre et la présence de la papauté. Donc, c'est la papauté qui, à un certain moment, a permis à Rome de survivre. Et non seulement la papauté, mais le pèlerinage à Saint-Pierre.
Et le pèlerinage.
Qui était fondamental pour les chrétiens. Et puis, l'autre source de légitimité, c'est l'Empire. Parce qu'à partir de Charlemagne, et surtout à partir de la dynastie ottonienne au Xe siècle, les empereurs vont venir se faire couronner à Rome. Alors, d'abord parce qu'il y a le pape, mais surtout parce que Rome, ça renvoie toujours au mythe, au souvenir de l'Empire romain, et que donc ces empereurs du Moyen-Âge se considèrent ou se désignent eux-mêmes comme empereurs romains, comme s'ils étaient les continuateurs d'Auguste ou de Constantin, et surtout de Constantin puisqu'il était chrétien. Et donc, même lorsque ce sont des Allemands, quand ils se font couronner en Allemagne, ils deviennent rois de Germanie. Mais tant qu'ils ne sont pas venus à Rome, ils ne sont pas empereurs. Donc il faut qu'ils soient couronnés à Rome pour avoir droit au titre d'empereur. Parce que c'est la continuité par rapport à l'idéologie impériale de l'Antiquité. Donc c'est grâce, je dirais, à cette fonction politique et idéologique de Rome que la ville s'est maintenue envers et contre tout.
Alors dans ce dernier ouvrage qui fait le point sur les derniers travaux historiographiques, comment les historiens qualifient le processus culturel du passage de l'Antiquité au Moyen-Âge d'interprétation chrétienne ? Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est.
Si vous voulez, interprétation chrétienne, c'est qu'on a relu tous les mythes fondateurs de Rome.
Je pense à la Pax Romana.
Mais en les transposant dans un contexte nouveau qui est celui du christianisme. C'est-à-dire que les papes ont repris à leur compte, justement, par exemple, l'idée de la paix romaine. C'est-à-dire qu'une des fonctions de la papauté...
Et pas seulement les empereurs.
Non. Voilà, c'est d'envoyer des légats pour essayer de rétablir la paix là où il y a la guerre. La guerre de Cent Ans, par exemple, les papes ne cessent d'envoyer des légats aux rois de France et d'Angleterre pour qu'ils arrêtent de faire la guerre entre eux. Donc il y a cette idée que une des fonctions de la papauté et de Rome est de rétablir l'ordre. Dans la réalité, ça n'a pas toujours, et loin de là, été couronné de succès, mais il y a ce recours à Rome pour arbitrer, disons, les conflits. Et puis il y a aussi l'idée de beauté, de décor urbain, qui est une notion profondément ancrée dans le passé romain antique, mais qui a été reprise à son compte par la papauté, puisque la papauté a eu quand même le souci toujours de restaurer et d'orner les églises. Mais à un certain moment, surtout à partir du XVe siècle, il y a une véritable politique de la beauté, c'est-à-dire qu'on cherche à faire venir à Rome les meilleurs artistes. Et Rome a été à un certain moment à l'avant-garde des courants artistiques en Italie. Et là encore, les découvertes récentes sont en train de modifier les choses, parce qu'on l'a découvert il y a une dizaine d'années, un cycle de fresques immenses dans une église qui s'appelle les Quatre Saints Couronnés, qui avait été blanchie sans doute au XVIIIe ou siècle. Et ce cycle immense de fresques, qui date de la moitié du milieu du XIIIe siècle, nous révèle qu'il y avait à Rome à ce moment-là de grands ateliers de peinture, à tel point qu'on se demande maintenant si, par exemple, Giotto ou les gens qui ont travaillé à Assise ne se sont pas formés à Rome. Voilà, on commence à... Parce qu'on croyait toujours que c'était les Toscans, les Florentins qui avaient réinventé la peinture, si vous voulez, la peinture gothique. Et maintenant, on se demande si ce n'est pas plutôt à Rome que, d'ailleurs, Cimabue est venu à Rome se former, Giovanni Pisano aussi. S'il n'y avait pas eu à Rome des ateliers extrêmement importants et actifs, il ne serait sûrement pas venu là. Il serait allé ailleurs. Donc, même du point de vue, si vous voulez, de cette recherche de la beauté, non seulement comme ornement, mais comme forme, je dirais, du pouvoir aussi. Le pouvoir se doit de construire, de restaurer, de faire les plus belles choses qui soient. Cette notion a toujours été présente à Rome. Oui.
Vous parliez de cette église, là, mais justement, l'ouvrage aborde tout le décor de la ville, cette beauté, ce langage pictural, et parle d'une mise en page des murs pour ces décors urbains, enfin ces décors intérieurs des églises. Ça serait la particularité de Rome presque.
Oui, enfin,
ces grandes peintures à fresques, voilà, on les retrouve
il y a
pas
très tôt,
moins, en moins grande quantité.
Il y a un grand souci de couvrir les murs de fresques et de couvrir avec des cycles. C'est peut-être ça la spécificité de Rome. Ensuite, ça sera repris à Assise, à Florence, etc. Mais l'idée de faire des cycles sur le thème, par exemple, de la création... ou de l'histoire du Christ, depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection, etc. Donc il y a des compositions très vastes, c'est ça. C'est pas seulement une peinture par-ci par-là, ou une fresque dans un coin, mais il y a de grands ensembles picturaux, surtout dans ce qu'on appelle les basiliques majeures, les quatre grandes basiliques, où on a eu le souci d'organiser, disons, de mettre en image les principaux épisodes de l'histoire du salut et de l'histoire de l'Église.
Il y a quelque chose aussi d'intéressant dans l'art paléochrétien, c'est la réutilisation des matériaux sur place, que ce soit des colonnes. Donc il y a une réutilisation, puis il y a aussi un souci de restauration. On a l'impression que les gens du Moyen-Âge se sont posés les mêmes questions qu'aujourd'hui face à l'ampleur du patrimoine qu'ils avaient sous leurs yeux.
Absolument, alors, ils sont tout le temps en train de restaurer des églises qui ont parfois 500 ou 800 ans d'âge, et qui, certaines périodes, parce que la ville est devenue très pauvre, ou n'ont plus été entretenues, et alors arrive un cardinal ou un pape ou un noble qui décide de restaurer l'église. Et de fait, sans arrêt, on parle de restauration. il n'y a pas que des restaurations.
Non, non.
Il y a aussi des innovations.
Bien sûr.
Ça.
Oui, oui.
Et c'est ça qui est le plus intéressant. Mais c'est certain qu'il y a un souci de préserver les choses qui existent, quitte à chaque fois à les moderniser. Le plus bel exemple, c'est l'église Saint-Clément, qui est à côté du Colisée, ou pas loin, où on a trois niveaux superposés. On a un niveau de maison romaine avec un temple de Mitra, et donc on est là à la fin de l'Antiquité. Et puis on a un niveau chrétien qui a duré jusqu'au début du XIIe siècle, puis l'église a brûlé, le quartier a été détruit par les Normands. Hein. Donc, et ensuite, on a reconstruit un troisième niveau au-dessus, une magnifique église avec une voûte décorée de mosaïques splendides. Voilà. Parce qu'il faut, quand on pense à Rome, il faut toujours penser que Rome est un peu un point de contact entre l'Orient et l'Occident. Et que, par exemple, l'art de la mosaïque, comme à Venise d'ailleurs, il a été très développé. Donc il n'y a pas seulement peinture, sculpture, mais il ne faut jamais oublier la mosaïque.
Mosaïque et peinture, c'est ce qui domine presque.
Voilà, et la mosaïque est restée importante jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'est seulement vraiment à partir du XIVe que la peinture fait disparaître ou régresser, en tout cas la mosaïque. Donc on a beaucoup de très belles mosaïques à Rome, comme à Ravenne ou à Venise. Oui, c'est...
Dans les abscines des églises.
Oui.
Vous avez dit que ces innovations sont le fait aussi bien de la papauté que des édiles ou des formes de gouvernement sur cette longue période. Alors ce qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est justement cette recherche réelle de la beauté face à ces ruines. La ville est toujours là, malgré ces équilibres de pouvoir un peu compliqués.
Tout à fait. L'histoire politique de Rome pendant cette période est extrêmement compliquée, puisque Rome commence par devenir, après la fin de l'Empire romain d'Occident, devient simplement une chef-lieu d'une province de l'Empire byzantin et puis s'en détache progressivement. Et à partir des années 750 à peu près, on peut dire que Rome a coupé les liens qui l'unissaient à l'Orient. Et à ce moment-là, le pouvoir du pape devient relativement autonome. D'abord sous le contrôle de l'empereur carolingien à partir de Charlemagne. Et puis ensuite, les états pontificaux vont se développer en Italie centrale. Oui. Mais en ville même, à partir du XIIe siècle, se produit, comme partout en Italie, un mouvement communal. C'est-à-dire que la population de Rome, l'élite de la population, c'est pas tout le monde, bien sûr, aspire à ne pas être entièrement dépendant de la papauté et du clergé. Et donc, il y a une commune qui se crée et qui va co-diriger la ville, mais alors de façon souvent extrêmement chaotique et difficile, avec la papauté, pendant pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusque vers 1400. Et donc, dans cette commune de Rome, qui siégeait au Capitole, donc là aussi, il y a un palais qui est décoré, amplifié pendant toute cette période, se déploie tout un faste qui essaye de remonter à une autre Rome, qui est la Rome républicaine. Parce que la Rome des églises, c'est la Rome de Constantin, c'est la Rome chrétienne. Tandis que la commune, elle, essaye de revenir, tout en étant évidemment chrétienne, mais exalte plutôt, disons, le passé laïque, je dirais, de Rome, et celui en particulier de l'époque républicaine, avant qu'il y ait un empereur, avant qu'il y ait un pape. Les Romains s'administraient sous la forme républicaine. Donc on essaie de rétablir une sorte de république. Alors république, entendons-nous, république aristocratique, ce sont les commerçants, les hommes d'affaires. Ce n'est pas forcément une commune populaire, encore qu'à certains moments de son histoire, en particulier au XIVe siècle, avec des gens comme Colla di Rienzo, on a essayé aussi d'élargir, disons, la base de cette commune en l'étendant à des gens de la classe moyenne, voire inférieure. Mais alors, il y a de fortes tensions et des conflits fréquents, donc tout au long, entre le XIIe et la fin du XIVe siècle, entre le gouvernement pontifical et le gouvernement communal.
Et dans l'histoire de ce gouvernement communal, les historiens reviennent sur une idée de période complètement anarchique, ou laissée aux mains des grands barons de la ville. Il y a quelques idées nouvelles qui sont mises en avant dans l'ouvrage.
Oui, c'est ça. Là aussi, on a quand même pas mal travaillé sur ces sujets-là depuis une quarantaine d'années. Et on s'est aperçu que les choses n'étaient pas aussi simples. Alors, il y a effectivement à Rome une classe dirigeante qui d'ailleurs souvent réside en dehors de Rome, mais qui a ses possessions, disons, foncières en dehors de Rome. Ce sont les barons, donc les grandes familles aristocratiques et terriennes. Et puis, il y a, à partir du XIIe siècle au moins, des marchands, des éleveurs, parce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup d'élevage autour de Rome, la campagne romaine. Pas pour rien que les tableaux des peintres...
Ce qui heurtait les Florentins, d'ailleurs.
Nous montrent des troupeaux de vaches dans la campagne romaine. Il y avait donc tout un commerce aussi lié au cuir, etc. Des artisans, c'est un centre artisanal important. Beaucoup d'auberges, on dirait aujourd'hui d'hôtels, pour abriter les pèlerins, les voyageurs, etc. Donc il y avait toute une catégorie de gens qui, eux, étaient milieux populaires. mais qui cherchait aussi à s'élever socialement. Oui. Donc, la Rome des barons, ça existait, mais ces barons n'ont pas toujours fait la loi. Ils l'ont fait surtout dans la période précisément où, d'une part, le pape était absent, période d'Avignon, la papauté d'Avignon, entre 1310 et 1417. Et puis, à la fin, il y a eu une tendance très marquée de la papauté à reprendre en main la situation. Et la commune de Rome a été pratiquement soumise à l'autorité pontificale à partir de 1400. Et donc, c'est finalement la commune qui a perdu et le pouvoir pontifical qui a gagné. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et il y a eu toute une Rome municipale, communale, qui a été importante et qu'on a redécouvert
récemment.
En fait. Voilà.
Donc, on a écarté cette idée que Rome était restée à la traîne des grandes cités florentines marchandes dans leur conquête des arts. On voit aussi, donc, que sur le plan politique, Rome a une vie très active. Quel est l'autre grand préjugé que vous souhaiteriez voir tomber sur la Rome médiévale ?
Je crois qu'il y a beaucoup de préjugés. Donc, d'abord, l'idée que cette ville était tombée très bas. Et encore une fois, c'est à la fois vrai et faux, puisqu'elle était très diminuée démographiquement, mais elle conservait quand même une aura, un prestige extraordinaire pour les gens de toute la chrétienté occidentale et même au-delà. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte la puissance de ce mythe de Rome, pas cette idée très répandue, même chez les gens qui n'ont jamais mis les pieds à Rome, que c'est une ville qui n'est pas comme les autres, qui est extraordinaire. Et ça sera renforcé, cette croyance, sur le plan religieux, à partir de 1300, par l'institution, par le pape Boniface VIII, du jubilé. C'est-à-dire que.
Ah oui, ça a eu une immense importance.
Voilà, en 1300, on décide que les pèlerins qui viendront pendant ce qu'on appelle maintenant l'année sainte. Alors au départ, c'est tous les 100 ans, puis ensuite tous les 50 ans, puis ensuite tous les 25 ans. Et donc maintenant, c'est toujours 25 ans aujourd'hui. Tous les gens qui viendront pour un jubilé auront droit à l'absolution des peines dues pour leurs péchés. Alors, ça a encore rendu Rome plus populaire, puisque c'était le seul endroit au départ. Après, ça s'est un peu vulgarisé, mais c'était le seul endroit où on pouvait, au prix d'un pèlerinage, obtenir, disons, l'assurance d'être exempt des peines du purgatoire, par exemple. Donc, tout le monde, encore une fois, même le paysan le plus reculé, avait entendu parler de Rome comme une sorte de capitale de la grâce, où on pouvait vraiment...
Des femmes, des pèlerines
voilà,
s'y rendaient.
Il y a un mouvement de pèlerinage qui existait déjà avant, mais qui a pris des proportions.
Des femmes seules, qui n'avaient pas après les moyens de revenir.
Voilà, c'était pas toujours simple.
Dans leur contrée d'origine.
Il y en a qui venaient de Suède, de Bohême. Enfin, donc, c'était des gens qui accomplissaient évidemment des voyages très longs et très difficiles. Pour avoir la faveur extraordinaire d'être à Rome, d'arriver à Rome. Donc, pour la période médiévale, il faut toujours faire la part des choses entre une réalité économico-sociale, comme on dirait aujourd'hui, assez décevante par rapport à d'autres villes comme Florence, par exemple, ou Venise, ou Gênes, et puis une image mentale, disons, qui, elle, reste très
attractive.
Prestigieuse et attractive. Voilà. Et c'est grâce à ça que la ville, en quelque sorte, a survécu, même au-delà des pires difficultés, et Dieu sait s'il en a traversé à ce moment-là, oui.
Cet homme médiéval de Rome, André Vaucher, qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Il faut dire quand même qu'on le connaît mal, parce que justement, c'est cela qui a freiné pendant longtemps la recherche sur Rome médiévale, c'est que la documentation dont nous disposons, parce qu'on ne fait pas d'histoire sans archives, est extrêmement disproportionnée. On a un nombre de documents très important sur l'Église, parce que l'Église conserve bien dans l'ensemble ses archives, la papauté en particulier. Donc, je ne dis pas qu'on sait tout, loin de là, mais enfin, on a une abondance de documents, même sur les périodes assez anciennes, qui nous permettent de nous faire une idée assez précise de ce que c'était que le clergé romain, les églises de Rome, la papauté à cette époque, etc. Et inversement, très peu d'archives laïques. Par exemple, les archives des notaires, qui sont tellement importantes pour connaître la vie quotidienne, les testaments, les legs, les héritages. On n'a pas de notaire à Rome avant le 15e, enfin, on n'a pas conservé d'archives notariales à Rome avant le 15e siècle. Oui. Donc, ça ne permet pas de dire grand-chose sur les patrimoines des Romains, sur leur comportement. Alors là, il faut dire qu'on est bien documenté sur la vie des Romains, sur leur mentalité, à partir du 14e, 15e, et surtout au 15e. Parce que là, on a des chroniques, on commence à avoir des notaires, on a des œuvres d'art nombreuses, etc. Alors pour la période antérieure, il faut reconnaître que les sources sont très maigres, et que donc c'est justement pour ça que la question a été renouvelée depuis une trentaine d'années, parce qu'on a fait des fouilles, comme on n'en avait jamais fait, il faut bien le dire, En effet, il y a eu un jubilé à Rome, justement, on parlait de jubilé en 2000, et l'Italie a décidé de faire un grand effort pour embellir Rome. D'ailleurs, ça a été tout à fait réussi. Et pour faire des recherches qui n'avaient jamais été faites avant, dans le centre de Rome, pour justement savoir comment s'était passée cette période mal connue du Moyen-Âge.
On y a découvert des maisons médiévales.
Alors on a découvert on a fouillé tout en plein centre de Rome. Enfin, c'est comme si on fouillait Place de la Concorde, ou à peu près, par rapport à Paris. On a fouillé et mis en valeur tout un quartier qui est à côté de ce qu'on appelle le Largo Argentina, qui est vraiment tout près du Tibre. Et là, on a découvert un quartier bien conservé, quelque sorte fossilisé, qui a été très bien fouillé et qui est devenu aujourd'hui un musée. On a gardé tout sur place. On peut voir presque en grandeur nature le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, par exemple, à travers les matériaux, la céramique, enfin tout ce qui subsiste, la vie quotidienne des gens, la construction des maisons, etc. Oui. Et puis sur le forum aussi, on s'était surtout intéressé là aussi à l'Antiquité jusqu'à présent. Et on s'est mis à fouiller des niveaux médiévaux sur le forum. Avant, on jetait tout ça à la poubelle comme si ça n'avait aucun intérêt. Maintenant, évidemment, l'optique est un peu différente. Et on a découvert aussi beaucoup de choses sur justement ces maisons dont je parlais tout à l'heure, qui étaient construites sur les ruines dans le forum. Donc, ça permet de mieux saisir
L'évolution de la vie.
L'évolution, voilà. Et on a aussi recensé de façon plus attentive et étudier les témoignages des visiteurs, parce que les visiteurs, c'est quand même intéressant ce qu'ils racontent, même s'ils n'ont pas toujours tout compris, mais ils ont quand même noté souvent des choses très concrètes, très précises. Et même les œuvres d'art peuvent être utilisées aussi dans une perspective archéologique, parce que bien sûr qu'elles ne sont pas toujours réalistes, loin de là. Mais par exemple, la couverture de ce livre est empruntée à une série de fresques qui représentent les miracles de Sainte Françoise Romaine, qui est une sainte femme qui est morte au début du XVe siècle. Et elle est passée pour avoir accompli de nombreux miracles. Et donc, ce sont des miracles liés à la vie quotidienne. Des gens qui se noient dans le Tibre, des paysans qui reviennent de faire la vendange, parce que sur les collines autour de Rome et en ville même, cultivaient encore la vigne. Donc, il faut s'imaginer un paysage qui était
à la fois rural
et urbain, ce que nous avons de la peine, évidemment, à imaginer aujourd'hui, où tout s'est construit ou reconstruit.
Vous parlez de civilisation qui est devenue largement autarcique, d'ailleurs, à propos de ces évolutions.
Oui, parce que, justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin de l'Antiquité, Rome décline parce qu'elle n'est plus la capitale de l'Empire romain, mais aussi et surtout parce qu'elle est coupée de ses routes de ravitaillement. Parce que déjà dans l'Antiquité, Rome était dépendante de la Sicile, par exemple, pour son blé, ou de l'huile d'autres régions pour son huile, parce qu'il y avait une telle concentration de population à Rome qu'il fallait importer de tout le monde méditerranéen.
Mais là encore...
Le jour où ces routes, ces axes de navigation étaient coupés ou interrompus, il n'était plus possible de continuer à nourrir autant de monde. Donc les gens sont partis. Et puis ceux qui sont restés, eh bien, ils ont...
trouver d'autres solutions.
À cultiver la terre en plein cœur de Rome ou à faire pousser des vignes en plein cœur de Rome. Parce que, surtout avec la conquête de la Méditerranée orientale par l'islam, la Sicile, par exemple, est devenue musulmane au Xe siècle. Il n'y avait plus de possibilité de faire venir du blé de Sicile, alors que pendant des siècles, c'était ces cargaisons de blé qui avaient nourri la population de Rome. Donc, on a cherché parfois des solutions de remplacement, mais on ne les a pas toujours trouvées. Donc, il a fallu se replier sur la campagne romaine et sur la ville même, parfois, avec des jardins. D'où ce paysage tout à fait mité. On a des maisons, des jardins, des étangs. Enfin, oui, voilà.
Alors, pour conclure sur une note peut-être proche de cette Rome imaginaire que vous avez à cœur, quel est le récit ou la légende que vous préférez ou que vous pourriez nous raconter?
Il y en a beaucoup, mais
l'histoire d'un...
Il y a une légende tout à fait extraordinaire parce qu'elle illustre bien l'idée très forte et très admirative que les gens du Moyen-Âge avaient pour la Rome antique. On disait, et on a écrit, qu'à Rome, au Capitole, il y avait une salle, un grand local, où il y avait des statues, des automates, et que, comment on dirait aujourd'hui, et que chaque fois qu'un peuple envahissait l'Empire romain, eh bien, il y avait une statue mettant de la Gaule, une statue de l'Espagne, une statue de la Germanie. Voilà, toutes les anciennes provinces de l'Empire. Et que chaque fois qu'il y avait des envahisseurs qui pénétraient, comme s'il y avait eu Internet à l'époque, la statue bougeait le bras ou donnait un signe pour signaler ce qui s'était passé. Ouais, c'était évidemment complètement mythique. Mais ça prouve quand même que dans le souvenir, disons, qu'avait laissé Rome, c'était un système qui avait laissé le souvenir d'une organisation extraordinairement efficace. Ouais. Un système centralisé, impérial, avec des communications très bien organisées qui convergeaient toutes sur Rome. Et comme au Moyen-Âge, au contraire, c'était l'éclatement complet en seigneuries, en villes autonomes, etc., il y avait cette nostalgie d'un système étatique efficace qui n'existait plus, mais dont on savait qu'il avait existé un jour, et qu'on mythifiait, ou sur lequel on affabulait. Et donc je pense que c'est quand même très intéressant.
Merci André Vaucher d'être venu nous présenter votre livre « Rome au Moyen-Âge » publié chez Rive-Neuve Éditions, 500 pages qui réunissent les travaux de chercheurs français et italiens de l'Université de Rome, La Sapienza.